Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, la nuit de l'after continue, c'est la 30e de la Coupe du Monde. Nous sommes là depuis le début, toute la nuit, cette nuit jusqu'à 1h du matin, dans l'after qui est sur RMC en direct, qui est sur la chaîne YouTube, bien sûr, de l'after foot, l'after première radio de France le soir. Daniel Riolo, Daniel, bonsoir.
Et bonsoir les amis.
Kevin Diaz avec nous également, salut Kevin.
Salut à tous.
L'événement ce soir, c'est bien sûr le match Espagne-Belgique qui vient de se terminer. Qualification des Espagnols demain. L'Espagne affrontera donc la France mardi prochain, 14 juillet. On va en parler longuement.
Tout est écrit
ce soir.
Dans cette Coupe du Monde.
Exceptionnel.
C'est un livre ouvert, cette
Coupe du Monde. Tu veux dire France-Espagne à 14 juillet ?
France-Espagne, la demi-finale, on a l'impression qu'on en parle depuis le premier jour.
Ouais, et c'est, hop, vrai,
c'est là. C'est de l'autre côté où c'était plus indécis.
Bah, si on a... J'avoue que j'aimerais bien avoir un Argentine-Angleterre,
le rêve.
Argentine-Angleterre.
Le rêve.
Là, si ça, on va convoquer l'histoire.
Franchement,
si ça c'est Norvège-Suisse, c'est moins sexy, on va pas se mentir.
Sûr. Et si ça avait pu être.
On va pas se mentir,
si ça avait pu être au Mexique, au stade Aztec, pour le remake.
Ah, tu veux Messi qui marque de la main, c'est ça que tu veux ?
J'ai envie de voir l'Angleterre aller loin pour voir un peu jusqu'où ce qu'ils ont en eux. Quoi.
S'ils battent l'Argentine.
Non, d'abord, laisse-les battre la Norvège. Oui, non, mais et après, la demi-finale historique, on l'aura. Parce que là, si t'as un tableau. France-Espagne, Angleterre-Argentine, ouais. Permets-moi de dire que ça a de l'allure.
Ouais, c'est
je pense que Daniel va finir par nous dire que sa Coupe du Monde a commencé. Tu vois, avec
non,
le tableau
ça
comme
ça. Non, mais ça sert à rien d'être ironique. Ça sert à rien d'être ironique parce que depuis que j'ai dit on devait être au troisième match des 16e, on était encore à New York. Là, ça y est, c'est sérieux. En fait, vous savez tous que c'est vrai ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Kevin est d'accord avec moi. C'est toute cette formule, le troisième qui se qualifie et tout, ça a dilué. Et ça ne fait qu'une chose, contrairement à ce que vous disiez, genre vos espèces de belles paroles pour les petits et tout. En fait, ça protège les gros. Ça protège les gros. Oui, t'aurais jamais dû me lancer là-dessus. Ça protège les gros. C'est comme les têtes de série au tennis. Ça protège les gros.
À savoir que les 90% des meilleurs troisièmes ont été éliminés au 16e et juste il restait juste le Paraguay qui est sorti piteusement contre la France en 8e. Donc les meilleurs troisièmes pouvaient rester chez eux.
Ça ne servait à rien du tout.
Les meilleurs troisièmes pouvaient rester chez eux.
La qualification du Paraguay n'a servi qu'à une chose funeste, faire connaître la sénatrice.
Ouais,
voilà, quoi,
c'est celle-là, on aurait vraiment pu s'en passer en plus.
voilà.
Bon, on va analyser ce match. Il y aura l'équipe de France également tout à l'heure en débat, l'actu du jour. Et puis ce débat qui agite pas mal d'émissions d'RMC depuis quelques heures maintenant. Walid Acharchour s'est positionné déjà la nuit dernière, très tard. Mbappé est-il déjà le plus grand joueur français de l'histoire?
Je crois que c'est pas exactement ça qu'il a dit.
Est-ce qu'il est déjà à la table?
Voilà. De l'histoire, oui, je parle de l'équipe de France, évidemment. Je parle pas de l'histoire.
Non.
Pas de l'histoire du football. Non, je parle de l'histoire des Bleus.
Qu'il était à la table de Platini et Zidane en bleu.
Ouais, je parlais des Bleus, moi aussi.
Ouais. Ouais. Bah, je vois pas en quoi.
Bon, on débattra tout à l'heure.
Oui, enfin, si tu veux.
Mais... sans oublier le reste de l'actu lié à la Coupe du Monde et au monde du football. Et puis en fin d'after, on verra si le délire bandeau tresse de Daniel est vrai. On aura avec nous.
Ah, ça y est, enfin.
On a réussi à avoir un coiffeur.
Enfin.
On aura avec nous un coiffeur de star.
Et pas n'importe qui. Hein,
c'est-à-dire mon coiffeur.
Bien sûr. C'est pas le biggie au coin de la rue. Hein.
C'est le coiffeur de Neymar.
C'est du lourd. Ouais. C'est du très très lourd. Ouais. Et j'ai passé la journée à étudier les coupes de cheveux des amis hollandais notamment.
On a demandé à Samuel Umtiti s'il a réussi à avoir coupé.
Et Samuel, rien du tout, il passait son pote, alors il dit qu'il n'y a pas de problème.
32-16, on vous attend. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After.
Là, Samuel, on a rigolé.
06-12-424-424. N'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, à nous écrire. Bon, on a vu un match sympa quand même ce soir, Espagne-Belgique.
On a vu une équipe contre...
Bah, je sais pas si c'est
hier soir Kevin croyait à la surprise belge.
Moi c'est pas ça que j'appelle un match sympa. Pour moi c'est
un match sympa à suivre.
C'est Mexique-Angleterre, c'est ce genre, c'est le Norvège-Brésil de l'autre jour. C'est quand tu as deux équipes qui essayent de faire quelque chose. Le match sympa, c'est pas quand une équipe joue et quand l'autre n'est là que pour attendre, bétonner le cul dans la surface. Et c'est souvent le cas des équipes qui jouent l'Espagne. Je pense que la France fera exception mardi soir, mais on n'en est pas là. Donc match agréable, évidemment, parce que quart de finale et donc la tension qui va avec.
Merci.
Parce que l'exploit est toujours possible et ça aurait été effectivement retentissant si l'Espagne était tombée. Et dans ce genre de match un peu traquenard, on sait que parfois ça peut arriver. Fort heureusement, ça n'arrive pas souvent parce que je crois que les gens qui écoutent l'after depuis longtemps savent que je ne supporte pas ce genre de scénario. Quand une équipe ne veut absolument rien faire sur le terrain, je suis désolé. Quand c'est une petite équipe, je peux l'accepter. Quand c'est une équipe qui a autant de bons joueurs dans son équipe et qui peut proposer autre chose, parce que dans les 5 dernières minutes, quand ils ont pris le but des réveillants douceur, là, des réveillants beauté, là, Merino, là, d'un coup, ils se sont mis à bouger, ils se sont mis à attaquer et ils ont même été dangereux. Donc bon, tu vois, au bout d'un moment, ok, vous avez voulu faire cette tactique-là, vous vous êtes dit, c'est le seul truc à faire contre l'Espagne, sinon on va se faire ouvrir. Eh ben, très bien, vous avez pris le but de Merino à la dernière minute. Au revoir tout le monde. Merci les Belges. Au revoir.
Edgar Grolot nous rejoint. Il suit le foot espagnol toute l'année, bien sûr. Il est à Madrid d'habitude, mais là, il est parti aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
T'es à Los Angeles, Eddy?
Non, moi-même, j'ai fait mon dernier match, donc là, je suis rentré. Là.
Ah, t'es rentré?
Ouais, je suis rentré.
Alors, on n'est pas informé. Donc, t'es à Madrid, là.
Ouais, tu nous as pas envoyé ton itinéraire. Hein.
Bah, là, je vais arriver au bon moment à Madrid, là. Pour suivre.
Exact. C'est Espagne. Ouais. Bien joué.
1h30.
Bien joué.
Bravo.
Bon, évidemment, tu débats avec nous. Le 32-16 également est ouvert, supporter du foot espagnol. Kevin, toi, ton analyse globale de la rencontre?
Bah, mon analyse, c'est que je pensais que les Belges pouvaient embêter les Espagnols, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Alors avec leurs armes ou pas leurs armes, ou en tout cas avec le plan de jeu qui a été décidé par Rudy Garcia, qui est un plan de jeu totalement différent de ce qu'avait la Belgique, notamment en 2018, où c'était une équipe qui jouait un peu à l'espagnol avec beaucoup de maîtrise. Avec
la Belgique de 2018
avec beaucoup plus de talent, mais avec aussi beaucoup plus de maîtrise, une équipe qui avait la possession et qui s'est d'ailleurs fait crever par l'équipe de France sur un corner, alors que l'équipe de France a été plutôt dominée dans ce match. Je vais pas dire que c'était un hold-up non plus, mais en tout cas, les Belges avaient été, sur le plan du football et de la production, je pense, meilleurs, mais les Français avaient été plus efficaces. Là, aujourd'hui, c'est quand même un match différent. C'est un match où l'Espagne retrouve un très bon niveau, où on a Lamine Yamal qui retrouve un très bon niveau, même si on voit que...
Il manque encore 2-3 contrôles. Il y a 2-3 choses un peu ratées. Bah,
il a failli faire Messi. Tu vois, là, dans les 10 dernières minutes, la passe par-dessus, où lui, il rate ce contrôle très difficile réussi par Messi. C'était contre le Cap-Vert, je crois, le contrôle incroyable là, et l'enchaînement derrière exceptionnel de Léo Messi. Lamine Yamal, on voit qu'il retrouve quand même des jambes, et puis il y a quand même une équipe qui est sûre de ses forces.
Il y a du banc parce que ça fait deux fois que Merino rentre et fait la diff.
Très bon joueur Merino.
On a revu Nico Williams, je pense qu'il est loin d'être au top, mais il commence à rentrer dans les matchs. Je ne sais pas s'il peut démarrer.
On a revu un Fabien Ruiz moyen mais décisif.
Il est loin quand même, Nico Williams.
Oui, je pense qu'il est loin.
Fabien Ruiz moyen mais
quand
décisif.
Quand tu relais Merino, Yarzabal, quand tu fais tourner, même Ferran Torres parfois maladroit et tout, mais ça percute quand même à chaque fois. Ça vient provoquer, ça vient essayer de faire des 1-2. Ça essaye de jouer. Toujours, ça met du ballon. Le contact avec le ballon, c'est quand même très agréable à regarder. Les Espagnols, c'est du vrai football, quoi. Là, en face, c'était genre on bétonne. Doku, T'es où Jérémy? Et hop là, vas-y, si tu veux nous faire un sprint de 80 mètres en éliminant 5 joueurs et en mettant une frappe lucarne, voilà, c'est ça le projet de jeu des Belges, quoi. Bon, alors ok, je veux bien. Tillemans s'est blessé à l'échauffement. Gros coup dur. Mais je suis pas sûr qu'ils auraient joué autrement.
Non, ils n'auraient pas joué autrement parce que c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a dit hier pour l'équipe de France. L'Espagne maîtrise tellement son sujet. C'est un sujet différent de l'équipe de France, mais l'Espagne maîtrise tellement son sujet de cette possession. Parce que si l'Espagne n'a pris qu'un seul but dans cette compétition et donc ce soir sur un contre et un beau centre et une belle tête, si on se rappelle bien de l'Espagne d'Iniesta et de Xavi, c'est des équipes qui gagnaient aussi de très peu d'écart. Souvent 1-0.
La Coupe du Monde 2010, c'est tout 1-0.
Ouais, et qui ne prenaient pas de but parce qu'ils avaient une forme de possession qui était au moins offensive que défensive, et donc un peu à l'image de ce que réclamait Johan Cruyff, en gros ils gardaient la balle parce qu'ils disaient que quand t'as le ballon, bah ton adversaire peut pas te marquer un but, et donc cette possession qui est aussi défensive et qui fait courir l'adversaire et qui épuise l'adversaire, bah c'est eux qui la maîtrisent le mieux. Et moi, je vais pas me cacher, moi je voulais absolument que l'Espagne gagne ce match parce qu'au fond je veux voir le match-up entre les deux meilleures équipes des 3-4 dernières années. La France était moins bonne il y a 2 ans dans le jeu, et avait peut-être moins de talent, mais là cette année France-Espagne, c'est la finale avant l'heure, on l'aura en demi et tant mieux.
Je pense que les Français vont aborder ça.
Il y avait quand même quelques points à jouer pour la Belgique.
Oui, vas-y, les gars.
Je veux dire, il y a quelques situations où si la Belgique, je suis d'accord avec vous, ils ont très mal joué dès qu'ils avaient le ballon et dès qu'ils avaient des opportunités. Il y en a eu pas mal qui ont été mal joués, un peu balancés.
Ils ont même pas 0-2 d'expected.
Il y a des actions où tu sens que si tu joues un peu mieux le coup, que t'as une idée offensive un petit peu plus intéressante,
de jouer ou de coup, enfin voilà.
Mais Edgar, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je dis ça en projetant sur la demi, ça va être l'équipe de France, il y aura quand même d'autres
C'est 68%.
C'est
68%.
C'est 2 minutes passées dans les 30 derniers mètres.
C'est 68% de possession de balle pour les Espagnols. C'est le double de passes pour les Espagnols. C'est uniquement 244 passes réussies pour la Belgique. C'est 13 occasions à 2. Il y a un moment, oui.
La Belgique n'a rien produit avec le ballon.
Tu t'es fait juste nettoyer, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Au bout d'un moment, au revoir, quoi. C'est pas possible.
Après, sur l'Espagne, moi je trouve qu'ils ont très très bien commencé leur match et que jusqu'à l'égalisation de la Belgique, c'était sûrement la meilleure période et la meilleure phase d'un match de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde. Et après, j'ai trouvé ça un petit peu moins bon. Je sais pas si vous avez eu la même impression.
Oui, non, mais c'est un peu moins bon aussi parce que la
dernière fois, dans tous les duels avec un temps d'avance, etc., au niveau de l'intensité,
tu tournes en rond. Exactement. Parce que tu trouves plus vraiment la solution. Les autres, t'es vraiment à l'arrache sur tous les gestes défensifs. Ils se sont remarquablement bien battus, tu me diras. Mais oui, après, tu rentres dans une espèce de à quel moment ça va passer, quoi. T'es là dans l'attente. Bon, bah, ça a craqué à la fin, comme les Portugais. Pareil, le Portugal, l'autre fois, c'est la même chose. Avec les joueurs que vous avez, avec les talents que vous avez, mais proposez-moi un autre football. Proposez-moi.
Les Portugais ont fait un peu plus que les Belges, quand même.
Bah, ils ont quand même quelques joueurs bien supérieurs aux Belges aussi. Ouais. Donc c'était un petit peu normal.
Le Portugal, un peu à l'image de ce qui s'est passé ce soir avec Thibaut Courtois et sa blessure et sa sortie, j'aurais bien aimé voir le reste du match.
Il a bien plombé les Belges d'ailleurs, parce que vu ce qu'a fait le remplaçant.
Ah oui, Lamens, il les a tués là-dessus. Mmh. Mais Nuno Mendes, s'il sort pas, c'est peut-être un autre match et le Portugal, ils peuvent en mettre un.
Bon, dans un instant, on va écouter Rudy Garcia.
À force de défendre, tu craques. Soit tu te blesses, soit tu fais une
erreur. Supporter belge, on vous attend. 32-16.
Quand tu fais que ça.
Supporter espagnol, on vous attend. 32-16. On continue l'analyse de ce match. On va faire une évaluation parce qu'évidemment, on veut tous savoir de Espagne avec Edgar qui joue la France donc dans maintenant 5 jours. Oui, samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 jours. 4 jours, exactement. Allez, à tout de suite dans l'after, on est jusqu'à 1h du matin.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois. Il est 23h18, la nuit de l'after continue jusqu'à 1h du matin. La Coupe du Monde continue, elle aussi. Bien sûr, la France affrontera l'Espagne, donc en demi-finale. On continue l'analyse de la qualif espagnole face à la Belgique. Il y a quelques instants, écoutez Rudy Garcia, le sélectionneur belge,
oula,
qu'on connaît bien, qui a réagi juste à la fin du match.
Coach, la Belgique a tenu tête à cette équipe d'Espagne. Et c'est... On a eu la poisse aujourd'hui, tout simplement.
Bah ça, c'est sûr que entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable à faire un résultat. Et pourtant on était tout prêt, au moins d'aller en prolongation. Ce qui est bien, c'est qu'on a regardé l'Espagne les yeux dans les yeux. Je pense qu'ils ont douté à un moment, surtout quand on a égalisé. Voilà, mais les grandes rencontres, ça se joue sur des détails. Donc on est bien évidemment tous solidaires de nos joueurs qui ont pu faire quelques erreurs dans le match. Mais contre ce genre d'équipe, il ne faut rien donner, il ne faut pas faire de cadeaux, il ne faut pas faire d'erreurs. Et malheureusement, on se fait éliminer là-dessus. Il faut que ça serve de leçon, notamment à nos plus jeunes, voilà, qui sont pleins de fougue, pleins d'enthousiasme, et qui doivent aussi rester cartésiens. Et réfléchir aussi sur le terrain. Mais franchement, je suis fier de mes joueurs. On a montré que la Belgique était une grande équipe dans ce mondial. Franchement, on n'était pas loin de continuer l'aventure. Ça s'arrête aujourd'hui, il faut l'accepter aussi.
Mais vous avez fait rêver la Belgique aussi, quelque part. Hein. Ça, c'est un point positif.
Ah, j'espère, oui, effectivement. On a vu les images après les USA. On a vu les fan zones et ça fait plaisir. J'avais dit que j'aimerais que les 12 millions de Belges soient derrière leur équipe nationale quand j'ai commencé mon aventure avec les Diables Rouges. Et je pense que c'est au moins cet objectif-là qui est rempli. Voilà, il faut qu'on ait le soutien de tout le pays à l'avenir encore.
Merci Rudy.
Voilà pour Rudy Garcia.
Là-dessus, c'est pas faux le dernier mot, parce que je sais pas si on s'attendait à ce que les Belges soient en quart de finale. On était un peu perdu sur la valeur et les qualités de cette équipe, parce que bon, on se disait De Bruyne, il est un peu fini. Lukaku, non seulement était blessé, mais lui aussi n'est plus au top de ce qu'on a connu de lui. Donc ça faisait déjà deux joueurs très importants, pas en bon état. Il restait Tillmans. Après, il y avait qui? Après, il y a tous les nouveaux Belges. Mais le problème, c'est qu'il y en a un paquet, il les a pas utilisés. Et bon. On va quand même dire que
De Cattelaire, moi franchement, je suis impressionné par ce gars.
De Cattelaire, ça fait un petit moment qu'on le sait, ouais. Et qu'on sait qu'il est bon. Mais par exemple, ton
Moreira, ami Moreira,
non, ben, le Fernandez Pardo, non. Tu vois, des mecs comme ça, peut-être qu'il aurait fallu... voilà, il y avait un plan de jeu qui reposait beaucoup sur ce que Doku pouvait faire en phase de transition. espérer un peu que De Bruyne retrouve deux trois jambes et deux trois passes, mais on les a pas vus. La vérité, c'est qu'on les a pas vus. Et après, bah, ça a donné ce parcours qui peut sembler positif, parce que quand tu vas en quart, c'est quand même, voilà, tu te dis, j'étais dans le top 8 et tout. Mais bon, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as offert un gros match? Est-ce que t'as fait,
t'es quand même revenu contre le Sénégal.
T'as eu ton match frisson quand même. T'as eu ton match frisson avec le Sénégal.
Faut bien sûr retenir les émotions quand même dans ce genre de compétition.
Oui, bah, le match frisson, tu l'as eu. Tu l'as eu, c'est vrai.
Et comme dit Rudy Garcia, et comme disait le journaliste belge, quand même, les Belges ont vécu des belles émotions. Il y a eu des belles scènes de joie en Belgique sur les fan zones. Donc c'est aussi ça, une compétition internationale. C'est un peu ce qui s'est passé, bon, dans une autre mesure, mais avec le Cap Vert et les scènes de joie, même après la défaite très honorable contre l'Argentine. C'est aussi ça que tu retiens quand t'es une sélection qui est en pleine reconstruction, qui a perdu des joueurs qui étaient ou qui est en toute fin de carrière, avec des Kevin De Bruyne qui vont faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire du foot à leur échelle en tout cas. Et donc c'est quand même un bon résultat de finir en quart de finale.
Bon, après, là, le journaliste qui lui dit, vous avez la poisse.
Oui, non.
Bon, je pense que.
Vous avez regardé dans les yeux l'Espagne. Je sais pas s'ils ont regardé l'Espagne un peu de haut, quand même, dans les yeux, mais pas au même niveau, quoi. C'était pas non plus le regard de Brest des westerns, hein. C'était plus, tu vois, le regard du jouet de Toy Story.
Moi, j'ai du mal à comprendre quand on fait cette analyse-là, quand on vient, on dit, non seulement, alors, premier point, vous avez eu de la chance, bon, ou pas de chance plutôt, bon, ok. Et vous les avez regardés, vous avez joué, enfin, oui, au fin d'accord, quoi. Enfin, t'as juste couler un ciment, quoi. Tiens, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Le Cap Vert contre l'Argentine, ils les ont regardés dans les yeux, ils ont fait un match. Ben là, oui, c'est un match, ils peuvent l'encadrer, quoi. Là, les Belges, ils vont encadrer quoi? Le Cap Vert a perdu, donc c'est défaite et défaite, hein. Le Cap Vert, ils peuvent l'encadrer.
Le Cap Vert a perdu en prolongation, quand même.
Le match, ils peuvent le prendre, ils l'encadrent, tu vois, ouais. Ils en font un souvenir. Les Belges, ça, c'est quoi? Tu vas t'en souvenir de ce match-là?
Non.
Dans 4 ans, la Coupe du Monde, mais personne ne se souvient de ce match en Belgique. Il n'y a rien. Le match contre le Sénégal, oui.
Et les États-Unis, aussi. Après la polémique Balogun.
Bon, les gars, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. On va partir au stade parce qu'on a avec nous Eddy Brouzakis, qui est journaliste belge, qui est au stade ce soir. Bonsoir, Eddy.
Salut les amis, bonjour.
Salut.
Quelle analyse tu fais, toi? Tu te dis, de toute façon, la Belgique était en dessous, il aurait fallu un exploit?
Oui, c'est à peu près ça. C'était compliqué. Là, bon, il y a le score qui traduit difficilement, je trouve, la réalité du terrain, parce que l'Espagne était très clairement au-dessus, avec une large possession. Après, c'est vrai que les Belges ont dû composer avec la blessure de Tielemans, le capitaine, à coup d'envoi, puis il y a eu celle de Thibaut Courtois pendant le match. Et on sait qu'elle a eu vraiment des conséquences, puisque le gardien Sene Lammens se trouve sur le but espagnol. Mais dans l'absolu, on avait l'impression que les Belges allaient commencer à plier vraiment de partout, et que voilà, si c'était pas par Sene Lammens que l'erreur allait être commise, ça allait peut-être être par quelqu'un d'autre, mais dans l'absolu, on reste avec un goût de trop peu, parce que la réalité du sport, c'est aussi de savoir tenir une prolongation et d'espérer exister lors de la séance des tirs au but. Donc oui, un petit goût de trop peu, mais la réalité du terrain nous ramène à cette certitude que l'Espagne était très clairement dessus.
Il faut aller faire rentrer Penders.
Oui, moi je m'attendais à ce que tu dis.
Penders, pourquoi pas.
Et dis-moi, qu'est-ce qui était attendu en Belgique au début de cette Coupe du Monde, entre le groupe, bah, qui était quand même pas compliqué, donc sortir du groupe, ça semblait être le minimum, l'état de certains joueurs, j'en parlais tout à l'heure avant que tu arrives, j'ai l'état de certains joueurs historiques, bah, loin de leur comment on dit, Kevin, l'apex,
leur prime,
ouais. Qu'est-ce que vous attendiez de la sélection?
Mais ça, un quart de finale, c'était ce qui était attendu en amont de cette Coupe du Monde, pas vraiment davantage. Ça aurait pu s'arrêter contre le Sénégal aussi,
au vu des forces actives,
oui.
Non,
voilà. Voilà, il y a, oui, tout à fait. Nous, la presse belge va sortir de ce tournoi avec le sentiment de Rudy Garcia, qui nous a quand même souvent surpris agréablement avec des choix forts, sortir De Bruyne, sortir Doku, au coup d'envoi de certains matchs. Il a aussi bien ménagé Romelu Lukaku, il en a tiré la quintessence. Donc, l'objectif dans ce tournoi, c'était les quarts de finale. En dessous, ça aurait été une déception. Davantage aurait été merveilleux, mais on n'oublie pas, parce qu'on n'est pas dupe, que jusqu'à la 85e contre le Sénégal, là c'était quand même vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est mission accomplie pour les Diables Rouges, je dirais, que ce quart de finale.
Rudy Garcia, donc, il garde une image de positive, on est content de ses services en Belgique.
Oui, là pour l'instant, oui, jusqu'à la 85e contre le Sénégal, pas du tout. Là c'était... Attendez, je dois parler doucement. Attendez, parce que je suis en mix zone pour tout.
Ah, je suis en zone d'interview,
donc on me demande de parler doucement.
Ah, tu t'es fait virer.
Et il y a les joueurs qui sont derrière. Mais non, voilà, je suis là, j'ai reculé un tout petit peu, donc je vais parler un petit peu plus doucement.
Excuse-moi,
en fait, alors, vous me parliez de Rudy Garcia. Jusqu'à la 85e contre le Sénégal, c'était pas terrible son image, mais après, il y a eu cette remontada, et puis il a posé des choix très forts, mettre Doku sur le banc en profit de Luke Bakio, ça a payé. Il a osé mettre Kevin De Bruyne sur le banc, toute une rencontre aussi, ça a payé contre les États-Unis. Donc globalement, l'image qu'il a, c'est d'un coach qui ose prendre des responsabilités. Voilà, il s'est un peu durci, je trouve, dans la suite de ce tournoi, de temps en temps, dans certaines réactions, mais globalement, il ressort de ce tournoi avec une image positive.
Et dis-moi, ces derniers temps, quand même, vu d'ici, on a vu en Coupe d'Europe, notamment deux clubs belges qui, à chaque fois qu'on les voyait, moi, m'enthousiasmaient réellement, que ce soit Bruges ou l'Union Saint-Gilloise, avec un jeu... hyper dynamique, très généreux. Pourquoi la Belgique ne pense pas à suivre ce chemin-là en nommant à la tête de la sélection un Belge qui pourrait faire pratiquer ce jeu très généreux, déterminé, fait de pressing, comme un peu quand on voit jouer à la Saint-Gilloise ou Bruges? Pourquoi on ne s'orienterait pas vers ça?
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est réclamé? C'est un sujet qui existe chez vous?
Pas davantage que cela. Non, pas tant que cela. C'est vrai que l'Union a eu un jeu très, très vertical et l'idée, je t'entends quand tu dis que voilà, un entraîneur belge qui irait vers l'avant, qui aurait la volonté d'amener de la verticalité, de prendre le jeu à son compte. Mais qui? Qui?
Moi, ceux qui ont officié à Bruges, oui. des gars comme ça.
Sébastien Pocognoli, par exemple.
Ah, oui. Et Pocognoli.
Sébastien Pocognoli, il a été très bon à l'Union, mais il était sans doute encore un peu tendre pour reprendre cette équipe des Diables Rouges. C'était quasiment sa première titularisation, je dirais, en tant que coach principal à l'Union.
Je suis parti
à Monaco avec la suite que vous connaissez.
Il faudrait forcément être un daron de plus de 50 ans, quoi.
C'est plus facile de diriger une sélection qu'un club aujourd'hui.
Ouais. Pourquoi on déciderait pas de mettre un jeune qui ferait confiance à des jeunes et qui enverrait du jeu?
Oui, Ebi, vas-y.
Oui, mais vous savez mieux que moi que la réalité, c'est le résultat. Et quart de finale pour les Diables Rouges, c'est bien. Franchement, c'est bien. Si ça s'est arrêté contre le Sénégal, j'aurais abondé dans votre sens. Mais quand je vois que même chez vous, parfois Didier Deschamps est décrié quand on voit son palmarès.
En ce moment, on n'a plus rien à dire.
Ce métier est compliqué.
Non, c'était le style
non,
de jeu.
Non, pas vous, nécessairement, mais je parle dans l'absolu.
N'oublions pas, d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle quand même, parce qu'on n'a pas encore fait réellement de bilan Deschamps. Mais n'oublions pas que l'Euro 2024, c'était juste il y a 2 ans. La France est allée en demi-finale. C'était d'un ennui profond, c'était terrible, quoi. Mais les choses ont depuis changé.
Ouais,
les joueurs ont demandé à changer la formule et Deschamps a eu l'intelligence d'accepter et de faire confiance au choix des joueurs.
Et puis on peut rappeler que même si faire des très beaux parcours comme vient de le faire Rudy Garcia, comme l'a très souvent fait Didier Deschamps, c'est important, mais ce qui compte vraiment en sélection, ça reste de gagner. Et que Didier Deschamps, en 14 ans, il a gagné une fois.
Et puis merci, je sais que tu dois avoir du boulot là, dans la zone d'interview.
Oui, parce que les joueurs arrivent. Hein.
Très bien,
les joueurs
on te arrivent. Laisse. Embrasse, encore, les gars, merci, encore merci de nous avoir accordé quelques instants.
Salut.
Evi Brouzakis de l'RTBF, la chaîne de référence.
Qui joue avant-centre, c'est quand même pas son poste, quoi, tu vois. C'est...
Ouais, ça reste un attaquant quand même, mais bon.
Pas pointe comme ça. Ouais.
De Cattelaire sur le but, franchement, chapeau l'artiste, parce que
ouais, bon,
tu as vu, il met le bras pour laisser son défenseur derrière lui. Il a un timing parfait.
Il sera pas mis en attaquant de soutien ou.
Oui, c'est un 9,5.
Ouais, voilà,
après, ça reste pas c'est pas chapeau 1 et 2, quoi.
Non, mais je pense qu'il est nettement mieux si tu lui mets une pointe devant lui.
Un des rares footballeurs internationaux avec une tête de premier de la classe.
Oui, une tête d'enfant. Et ça, tu lui donnes un cartable, un goûter, et c'est OK.
Ouais.
Le cartable et Choco BN, t'y crois.
Et un nom quand même propice au jeu de mots, quand même.
Charles de Cattelaire ?
Ouais.
Ah bon ?
Quoi, t'as des jeux de mots ?
Cathéter, par exemple, tu vois, je sais pas.
Non, c'est nul.
C'est bien fait, Kevin.
Merci, Kevin. Dans un instant, Malik au 32-16 qui veut.
Flo Gautreau n'est pas là. Hein.
Malik veut nous interpeller. On conclut sur la Belgique et on reparle de l'Espagne. On n'a pas oublié de Gargorlo, bien sûr, parce qu'il faut qu'on se projette vers la confrontation face à la France, évidemment, qui nous avait fait rêver. Rappelez-vous, par exemple, en 2006, si vous voulez mettre Zidane à la retraite, les Espagnols, je ne sais pas s'ils veulent sortir cette fois. Edgar va peut-être avoir des idées. On en débat dans quelques instants. Avec vous, au 32-16. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois.
Vous êtes dans l'after, il est 23h33, nuit de l'after jusqu'à 1h du matin ce soir après la victoire de l'Espagne face à la Belgique de 2-1. On va se projeter vers la demi-finale Espagne-France dans quelques instants. Mais pour continuer tout de même sur le match un petit peu, on a Malik qui est là. Malik qui veut interpeller l'after sur les blocs bas, je crois. Salut Malik.
Salut à tous, bonsoir.
Malik, j'espère que t'es armé. Hein.
Ah, je suis bien armé.
J'espère
là,
que t'as pris ton ciment.
J'ai tout pris.
T'as pris la pelleteuse.
Ah oui, surtout pour Monsieur Riolo.
Ah.
Je suis là, je suis
donc
là.
C'est bien parce que lui, il a le marteau piqueur. Hein.
Ah bah allez, c'est parti. C'est parti. Parce qu'en fait, je sors donc de ce match Espagne-Belgique. J'allume RMC, la radio comme d'habitude. Et là, je tombe sur les propos de Monsieur Riolo, qui se plaint en fait du bloc bas belge, en disant que l'Espagne, oui, a joué contre un bloc bas belge. C'était leur tactique et en fait, les Belges, ils ont eu que ce qu'ils méritent. Mais en fait, l'équipe de France, depuis le début de la compétition, les mecs, 6 équipes, 6 blocs bas. Et il n'y a pas une seule fois où on a interpellé en disant, ouais, bah, ils ont eu ce qu'ils méritent et que l'équipe de France a attaqué, ils méritaient ça. Donc c'est là où j'en veux beaucoup à M. Riolo ce soir, c'est qu'il se plaint du bloc bas belge. Par contre, il ne s'est pas plaint du bloc suédois, irakien, paraguayen, etc. Hein? Donc ça, pour moi, je suis
j'ai pas compris.
Tu t'es pas plein des blocs des adversaires qui ont joué contre l'équipe de France.
Oh, bah, c'est pas mal, voilà, en fait. Si tu veux, je peux.
Après juste, si tu veux. Ouais, on en a parlé aussi tout à l'heure parce que, alors, la Suède, bon. Mais là, tu peux pas considérer que la Belgique a le même talent que l'Irak, que le Paraguay ou que certaines équipes qui ont apporté l'équipe de France.
Alors, si tu me dis à moi que je me suis pas plaint de ce qu'ont fait les Paraguayens et tout, mais moi je m'en plains tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand c'est
non,
des petites équipes.
L'équipe de France, Daniel. Oh, écoute, on a eu le match de l'équipe de France.
Bah alors si tu veux, je le fais. Si tu veux, je le fais maintenant. Mais de toute façon, historiquement, si t'écoutes l'after depuis des années, tu sais très bien que les équipes qui recourent à ça me déplaisent tout le temps. Que ce soit contre les Bleus, l'Espagne ou le Groenland, ce sera pareil. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais j'en veux surtout beaucoup plus tout le temps aux équipes qui ont des bons joueurs et à qui on demande de jouer totalement contre nature. Après, si t'es réduit à 10 par exemple, ça peut être une adaptation ou ce genre de choses. Il y a aucun problème avec ça. Mais non, je trouve que là, ta remarque ou ton procès, ouais, c'est au moins un peu fallacieux, parce que pour moi, c'est pareil. La Suède, l'Irak, mais l'Irak, je vais pas aller leur reprocher de faire un béton aux Irakiens.
Non, mais je ne parle pas spécialement de l'Irak, parce que la Suède, il y avait quand même Jokeres, Isaac devant. L'Espagne ce soir, ce qu'ils ont proposé.
Mais la Suède, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Ils avaient 2 points à peine. Ils sont qualifiés à l'arrache. Mais si tu veux, je peux dire que ça me déplaît autant. C'est pareil. Non, mais là, on perd du temps, parce que je suis d'accord avec toi, en fait.
Non,
on perd du temps, je suis d'accord avec toi, moi.
Beaucoup plus précis, c'est que l'Espagne, face à ce bloc bas belge, et face à quand même Doku, de Ketteler, de Bruyne, Trossard ce soir, ouais, face à un bloc bas belge et avec des contre-attaquants très performants du côté belge, ouais, ils ont quand même réussi à se défaire de ce piège. Ils ont été parfaits techniquement.
Bah,
là
oui,
où
alors,
les Bleus, à chaque fois qu'ils ont joué contre un bloc bas.
Mais il t'a semblé qu'on n'a pas dit ça.
Une attaque extraordinaire.
Non, mais Malik, t'as eu l'impression qu'on n'a pas dit ça.
Oui, la première chose que tu as dit, Daniel, c'est que les Belges ont que ce qu'ils méritent. Ils ont joué en bloc bas
et donc,
la fin Michael Merino.
Mais qu'est-ce que tu dis de différent, en fait? Je comprends pas, en fait.
Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas mis en avant la performance espagnole ce soir face aux Belges.
Mais on n'en a pas encore parlé.
Où ils ont été littéralement parfaits techniquement.
Mais on en a pas encore parlé.
Là, je pense, Malik, que là, tu te trompes. Là.
Mais là, tu t'es venu. C'est très bien que tu sois venu.
Malik, reste là parce qu'on va justement.
Tu peux rester avec nous, mais évidemment, t'inquiète pas qu'on va dire à quel point. Mais je l'ai même dit que le jeu des Espagnols, c'est ce qu'on préfère, c'est notre football. Enfin, je comprends pas de quoi tu parles, en fait.
Alors, j'aimerais d'ailleurs qu'on parle des choix, mon cher Edgar, du jour. Parce que, oui, évidemment, Fabián Ruiz, est-ce que pour toi, c'est une surprise? Une demi-surprise, le fait que De La Fuente les titulariser ou pas?
Non, alors, si tu m'avais dit au début de la Coupe du Monde que Pedri allait être sûrement pour un quart de finale, là, je t'aurais dit c'est une énorme surprise. Mais quand tu vois ses prestations depuis le début de la compétition, bah, en fait, c'est là aussi que tu vois que le coach, il a de l'autorité et qu'il sait faire des choix forts quand il le faut. Parce que Pedri, depuis le début de la Coupe du Monde, il est pas bon. C'est pas le Pedri qu'on aime. Il est pas mis, non plus en valeur par, je pense, le système espagnol en 4-2-3-1 qui lui permet pas de s'exprimer comme il aimerait s'exprimer. Et là, il est largement en dessous de son niveau. Même son entrée aujourd'hui, elle impacte rien et donc il fait un choix intelligent à mettre Fabien Ruiz.
Pour moi, je pense qu'il faut arrêter avec ces trucs de choix forts et de machin et tout. Enfin, je vais le répéter pour la millième fois. Dans un football à 5 changements où tu n'es plus du tout dans les changements à la 80e ou 75e ou dès la mi-temps, dès la 50e, tu changes. En fait, tu partages ton temps de jeu, quoi. C'est tout. C'est comme Barcola et Doué. Et que Pedri ait démarré ou pas, très honnêtement, on s'en fout. Avec Fabien Ruiz, sont de très bons joueurs techniques qui, de toute façon, sont parfaitement adaptés au jeu espagnol. Le choix de Ruiz est récompensé parce que c'est lui qui marque. Après, je trouve qu'il commençait un petit peu à descendre et à être moins bon. D'ailleurs, j'ai pas trouvé en dehors de son but qu'il ait fait. Certes, il a fait un peu la courroie au milieu pour faire transiter les ballons de gauche à droite et tout. Mais en Espagne, ils savent tous le faire, ça. C'est leur école de football. Donc après, Pedri rentre. Bon, c'est le moment où ça correspond à la victoire, mais Pedri est pas fantastique quand il rentre, mais on sait très bien que peut-être que contre la France, il sera excellent. Tu vois, c'est que des bons joueurs les Espagnols. Ils ont ce luxe-là.
Oui, mais le statut de Pedri, il est autre.
Mais en fait, quel est le choix en fait? Démarrer un match ou faire rentrer un autre à la 50e? En quoi c'est un choix?
Ah, c'est quand même un choix quand tu as un des meilleurs joueurs.
Parce que le statut de Pedri, il est particulier.
Pedri, c'est top 15 Ballon d'Or, tu vois.
C'est fini le truc des statuts. Oui, si tu me dis que Mbappé, il a mes statuts, Mbappé, il est tout le temps efficace.
Pedri, c'est top 3 d'Espagne. En qualité individuelle au poste.
Pedri, avec Rodri et Lamine Yamal, c'est les 3 stars de la sélection.
Pedri, il
est pas tout le temps bon parce qu'il a eu des grosses blessures et qu'il a eu un peu de mal à enchaîner. Mais sinon, en termes de qualité intrinsèque à son poste, c'est le successeur de Xavi et Iniesta dans cette génération. C'est peut-être pas le même talent, mais c'est le successeur.
Écoute, alors, je vais essayer de te le dire autrement. Pedri, pour moi,
c'est pas un titulaire indiscutable.
Pedri, pour moi, mais je vais essayer de t'expliquer ma vision. Pedri, pour moi, si tu prends un contexte favorable à l'épanouissement du joueur, pour moi, je le mets dans le sac, tu mets Neves, Vitinha, Ruiz, tu vas en mettre beaucoup des milieux de terrain. Tu vas en mettre beaucoup. Donc, pour moi, c'est, mais on parle d'un panier, ouais. On parle d'un panier premier
le,
choix.
Le
hein.
premier,
on
le parle premier chapeau.
On parle d'un premier choix. Là, il y a de l'interchangeable. En revanche, si tu me parles d'un Mbappé, d'un Dembélé version PSG, et même là maintenant avec les Bleus, mais ce genre-là, ou Yamal, même un peu en dessous, parce que j'ai Bobo derrière la cuisse, tu vas jouer. Parce que toi, tu fais des trucs que les autres ne vont pas faire. Tu vois, pour moi, il y a une différence entre ces joueurs-là.
Il était dans la discussion pour le Ballon d'Or l'année dernière.
Mais ok, très bien, il peut l'être. Vitinha aussi, on peut dire
Vitinha, qu'il est. C'est titulaire indiscutable.
Okay, la saison où Lamine Yamal gagne presque le Ballon d'Or, Pedri, il fait une meilleure saison que lui en championnat. Hein.
Écoute, moi je vois, je sais pas si je m'en fais bien.
Quand je vois la compo, je suis surpris de pas avoir Pedri.
Non, mais que tu sois surpris, ok. Mais si c'est Fabien Ruiz qui joue, moi ça me choque pas.
Ça me choque pas, mais j'ai pas employé le mot choqué, mais ça me surprend très fort. Ah, je suis surpris. Si je vois Pedri sur le banc, c'est qu'il est blessé.
Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Si tu me mets à droite un autre mec que Yamal, je me dis Yamal est blessé. Là oui.
Oui, mais les gens se disent
mais
ça.
Mais pas pour Pedri. Bah pas moi.
Ah pas toi. Moi, en tout cas.
Moi quand t'as les milieux de terrain qu'ont les Espagnols avec leur qualité naturelle et tout.
Par contre si tu me dis que Merino il est titulaire dans cette équipe, je tombe pas de ma chaise non plus. C'est-à-dire que là c'est titulaire.
Pour moi il y a un moule. En revanche, en dehors du moule. Il y a peut-être Yamal qui est en dehors du moule.
Je veux dire, Pedri, c'est pas Gavi, quoi, tu vois.
Pedri, il est titulaire indiscutable dans cette équipe.
À l'image de Marca, parce que Jimmy Brown suit ça de très près, qui titrait à 20h. Ruiz à la place de Pedri, genre 4 points d'exclamation.
Mais en fait, pour moi, c'est le foot d'avant. On est largué là-dessus.
Mais les titulaires,
qu'est-ce que ça peut foutre?
Les titulaires, ça vaut encore quelque chose.
Que ça peut foutre qu'un mec démarre à partir du moment où maintenant tu peux le remplacer, tu le remplaces à la mi-temps, t'as 5 changements.
J'entends, mais tu mets.
Si tu vois qu'il démarre, toi, tu pourrais être coach, toi. Ouais. T'es directeur sportif. Ouais. Aujourd'hui, on est totalement décomplexé dans l'approche du match.
Ça, c'est sûr.
T'es là, tu regardes. Il y a encore 10-15 ans. T'étais là, t'avais mis ton équipe de titulaire, t'étais l'entraîneur, t'avais l'impression qu'il se grattait la tête, il disait, putain merde, lui il est titulaire, je le sors ou je le sors pas. Aujourd'hui, mais, allez hop, mi-temps tu sors et pas de problème. 48e, 50e, tu sors, c'est bon. On passe à autre chose. On y va.
Oui, mais c'est comme ça maintenant. Tu as raison sur le fond.
Toi qui aimes bien voir les évolutions du jeu, je suis sûr que ça ne te choque pas.
Il y a aucun problème. Je te dis que même à notre niveau, on voit beaucoup d'entraîneurs maintenant qui font leur bande touche au moins de façon aussi consciencieuse que leur équipe type pour avoir des armes, pour avoir des solutions. Il y a aucun souci. Mais il y a quand même des indéboulonnables. Et normalement, en Espagne, Pedri fait partie des indéboulonnables.
J'aimerais qu'on écoute le sélectionneur espagnol. Edgar, t'es prêt à traduire?
Ouais, je l'écoute.
C'était il y a quelques instants, à l'issue du match. C'est parti, traduit par Edgar Grolot.
Pues sí, es el carácter del equipo, la actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia.
C'est l'attitude qu'on a tout le monde, qu'on a tout le temps.
Reiterar mi orgullo de dirigir un equipo tan comprometido.
Je répète ma fierté avec cette équipe. Avec cette envie toujours de progresser, de s'améliorer, de grandir. On aurait voulu gagner plus tranquillement, mais on sait à quel point ce monde est équilibré. Et à quel point c'est difficile de gagner ce genre de match à ce niveau en Coupe du Monde.
Del plan B, del plan A, es un valor seguro este futbolista. Vaya mundial está haciendo.
Merino, c'est le plan B en sortie de banc, c'est une valeur sûre et il fait un super mondial.
Il
pourrait jouer dans n'importe quelle sélection, n'importe quelle équipe. Et avec nous, c'est un des symboles de ce modèle-là. Et dès qu'on a besoin de lui, il est toujours là.
Ah, il va parler de la France.
Maintenant, vous allez devoir affronter la France.
Y se ha ganado el derecho a pensar podemos eliminar a Francia, es España, ¿no?
Bueno, on a, s'il y a bien une équipe qui a gagné le droit de se dire on peut éliminer la France, c'est l'Espagne, non?
On
va travailler pour essayer de battre la France.
La única solución en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente.
On est la seule équipe au monde qui a réussi à les battre deux fois d'affilée. Et on va affronter une nouvelle très grande équipe.
No hay dos sin tres, mister. Muchísimas gracias a por Francia.
Gracias por todo.
Voilà, et merci.
Merci Louis, maintenant c'est Edgar. La France.
Voilà, maintenant c'est la France, effectivement, on va en parler de nous dans quelques instants. Avant de parler de l'équipe de France et de la confrontation, du style qu'on va voir, faisons une petite évaluation juste après la pub pour nous dire, voilà, tu veux dire qui t'a aimé, Edgar, qui t'a pas aimé, on va partager ses avis ensemble. Je remercie Malik au 32-16. On est là jusqu'à 1h du matin.
Il ne s'inquiète pas, on pense le foot comme lui, hein. On félicite l'Espagne, on adore. Le football technique, on est là.
Et jusqu'à 1h du matin, on est là avec l'équipe de France également au programme après minuit. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec Edgar Grolot, il est 23h48, nuit de l'after jusqu'à 1h du matin. Avant de se projeter vers la confrontation entre Espagne et France mardi prochain, finissons le match de ce soir avec une petite évaluation espagnole. Edgar, quel a été le meilleur espagnol du match pour toi?
Bon, celui où en tout cas son niveau est incomparable au match d'avant, c'est Lamine Yamal qui, je trouve, on a retrouvé sur voilà tout ce qui manquait dans les derniers matchs, sa vivacité, sa capacité d'élimination.
Arrivé blessé à la Coupe du Monde,
je le trouve encore un peu mal.
Oui, voilà.
Enfin, sur les 60
premières
minutes.
Non, mais alors je te dis pas qu'il est à son meilleur niveau, mais là on a retrouvé le Lamine Yamal qui
déséquilibre.
Bah, je trouve qu'il est baissé, il a peut-être baissé un tout petit peu en rythme justement au fil du match, mais tu sens quand même un autre joueur que ce qu'on avait vu depuis le début de la compétition. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour eux, et je pense que faut espérer, faut croiser les doigts qu'il arrive pas encore à trouver à trouver la mire et à affiner peut-être sa patte gauche sur ses enroulés, sur ses finitions face aux Bleus, parce que là tu retrouves vraiment le joueur qui te change un match. Maintenant, il y a individuellement, je trouve pas énormément de joueurs espagnols ce soir qui ont été au-dessus du lot. Je suis quand même déçu par la prestation de certains joueurs. Regarde sa balle.
Tu l'enlèves de la bouche. J'allais dire, il va falloir quand même qu'on s'arrête deux secondes sur Rodri, parce que on l'avait un peu perdu de vue depuis le Ballon d'Or. On sait pourquoi. Là, le Rodri que je vois là. C'est
le joueur qui casse le plus de lignes par la passe dans cette compétition.
C'est à la fois la gare de triage, il fait tout quoi dans la gare quoi. Il lance les trains, il intercepte, il est fantastique.
Tu vois, lui, il y a un cliché exemple, autour de ce joueur, il apporte rien.
Mais pour moi, Rodri au top de sa forme milieu de terrain, lui il est dans la case à part.
Mais il est Ballon d'Or déjà. C'est normal. Oui, mais c'est normal, ça veut dire que
en fait quand tu fais ta remarque, c'est comme si tu confirmes ce que je dis.
C'est les deux. Pour moi, les deux. En Espagne, c'est les deux.
C'est la case à part. Si Rodri ne démarre pas le match, là, je vais faire « Ah ouais, il est blessé, mais pas Pedri. »
C'est le capitaine.
Ah, ok, les gars, donc en fait, ce que vous faites, c'est une ponctuation pour dire « On est d'accord avec toi ?»
Non, mais c'est les deux. Pour moi, c'est pareil.
Mais je crois qu'on était déjà d'accord avec toi tout à l'heure.
Non, parce que sur Pedri,
parce que lui, il disait qu'il n'est pas
sur les changements,
mais c'est pas un titulaire. C'est genre, il faut qu'il soit là tout le temps. S'il n'est pas là, personne ne peut le remplacer. Pedri, je pense qu'il y a du monde pour remplacer.
Amusons-nous à un truc.
Rodri, il démarre pas le match. Je pense que t'es très emmerdé.
Je t'assure que Zubimendi, quand tu vois les matchs qu'il a, tu vas rigoler. Mais Zubimendi, tu vois les matchs qu'il a fait avec l'Espagne quand Rodri était pas là. C'est exceptionnel. Hein. C'est... Il y a eu plein de matchs où l'Espagne était très performante sans Rodri. Maintenant, c'était pas en Coupe du Monde, donc c'est pas la même histoire.
Amusons-nous un petit jeu, les gars. On est évidemment du tyrambique avec les quatre nos quatre mousquetaires français là devant.
Ah, toi, tu les appelles les mousquetaires. Ouais, les fantastiques, les mousquetaires.
On m'a proposé ça en me disant qu'Olysée c'était D'Artagnan parce que c'est le mec pas prévu qui vient en dernière minute.
Le truc, c'est quand même. À la base, c'est les trois mousquetaires. Donc,
ben là, c'est les quatre.
Le titre, ça n'a jamais été les quatre mousquetaires.
C'est pour ça que c'est les quatre maintenant. Ah, mais... Et comparons-les.
On ne l'était pas.
Hein. Comparons-les aux quatre espagnols, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. Pas photo quand même.
Non, il n'y a pas photo, mais bon.
Non.
Après, c'est complètement différent. Les Français sont des individualités très fortes, capables pour tous les joueurs de gagner des 1 contre 1 de façon assez facile, notamment par de la puissance physique et de la capacité de vitesse d'élimination. Les Espagnols, ils n'ont que Lamine Yamal dans ce. Ils avaient Williams à l'Euro.
Pour moi, c'est leur limite qui peut être compensée par le collectif, mais. C'est une limite cette année. On verra si ça.
Ouais,
ça
mais les Bleus aussi, ils l'ont ce collectif-là.
On verra si c'est vrai mardi. Mais la différence avec 2024, c'est que l'équipe de France ne pouvait pas opposer ces fameuses individualités qui déglinguent tout. Et encore. Sur ce match-là où ils se font promener, je rappellerai toujours que les Bleus ont marqué en premier et que Mbappé a une balle de 2-2 et que ça peut faire traquenard quand même. Même s'ils se sont fait manger tout le long.
Parce que la France est quand même une équipe avec des qualités individuelles.
Ah, exactement. Mais cette année, je trouve qu'ils en ont plus. Avec Olysée, Mbappé, Dembélé et Diogo Barcola.
N'oublions pas que pour Oyarzabal, c'est un super joueur, très intéressant, très intelligent. Mais Upamecano et Saliba, il faut les passer dans cette Coupe du Monde.
C'est pour ça que pour moi, c'est un 55-45.
Il est régulier, Oyarzabal, en faveur
des Bleus.
Il est irrégulier.
Pour moi, c'est un 55-45.
Ah ouais? Je crois que Kevin, t'es pas plus sur le 60-40?
Non, j'étais dans le 52-48.
Ouh.
Ah non, pour moi c'est très serré quand même.
Moi je vais vous dire 60-40 du fait de la différence de puissance offensive et d'assurance offensive.
C'est ça.
Ouais, mais au milieu de terrain, ils sont meilleurs quand même.
C'est ça.
Tu veux dire la doublette espagnole est meilleure que la doublette française devant la défense.
Bah déjà ils sont trois déjà. Ouais, ils sont trois déjà au milieu.
Eux ils sont trois
au milieu. La maîtrise du ballon.
Ouais, c'est différent après le fonctionnement parce que c'est un 4-2-3-1. Olmo qui joue extrêmement haut. C'est un peu différent. Et même Fabien Ruiz aujourd'hui tu regardes
qui sont trois.
Que faisait Pedri sur d'autres matchs.
Si tu projettes Olmo en gros, t'as les deux de côté, Baena et Yamal.
Ouais, Olmo est plus un milieu de terrain que.
Tu veux dire Olmo c'est plus un Griezmann qu'un.
Non mais là vous avez parlé du milieu de terrain.
Ouais.
Non là je disais au milieu de terrain.
Non mais j'ai dit si je continue les comparaisons, est-ce que Ruiz, Rodri, c'est mieux que Rabiot, Koné ou Rabiot Tchouaméni?
Non mais de toute façon,
s'il y a Rodri dans l'équation.
Si tu dois comparer les deux équipes, l'équipe de France au niveau individuel, ils sont meilleurs. C'est des joueurs qui sont meilleurs individuellement, notamment dans la capacité d'accélération.
Je pense que Koukouré est meilleur que Digne.
Oui. Moi, je vais dire, si tu regardes le 11,
tout le monde. Et à droite, il y a quand même.
Si, t'as Rodri, t'as Yamal, et peut-être Koukouré là. Mais tous les autres, les Français sont meilleurs.
Mais la différence aussi,
si t'as un Pedri au top au milieu,
à l'inverse de l'équipe de France.
Oui, mais ça dépend ce que tu veux faire. Dans le jeu de l'équipe de France, Rabiot, c'est peut-être meilleur que Pedri.
La différence, messieurs, dans cette Coupe du Monde, la grosse différence, c'est que l'Espagne n'est pas encore à son meilleur niveau et n'a toujours pas montré son meilleur niveau. Là où la France, on les a vus vraiment atteindre un niveau exceptionnel. L'Espagne, on reste un peu sur notre faim et j'ai vu beaucoup, beaucoup de matchs sur les 2-3 dernières années de l'Espagne
qui sont meilleurs que
le niveau. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu d'accord sur le. Je t'aurais dit, c'est du 50-50. Mais là, depuis le début, et si les deux équipes ont le niveau qu'elles ont depuis le début de la compétition, la France est au-dessus. Ça, il n'y a pas vraiment.
Mais l'Espagne,
c'est un peu
la voiture allemande. Elle reste toujours sur son rythme de croisière. C'est-à-dire que l'Espagne, elle va jamais te faire un 80, elle va jamais te faire un 9 sur 10, mais elle va pas te faire un 3 sur 10 non plus.
Ça dépend si c'est une Mercedes.
Sur les deux dernières années, ça a été le cas.
Mais non, là, c'est. D'accord, mais l'Espagne, c'est en grande compétition depuis 2022, quand même, ça va. L'Espagne, à l'Euro 2024, ils ont jamais été extraordinaires, mais ils ont jamais été faibles non plus. Ils sont toujours moyen bon, voire très bon. Et c'est pour ça que tu dois toujours te méfier de cette équipe. Parce que ce que je disais, c'est que elle a de moins de qualité individuelle, mais elle a une ADN collective qui est indéniable. Les mecs, ils ferment les yeux, ils se donnent la balle quand même. Donc ça reste toujours quelque chose qui est difficile à déjouer pour un adversaire.
Non, mais je pense qu'il y a un joueur qui va compter beaucoup, ça va vous surprendre, mais en sortie de banc, et il faut absolument qu'il arrive à corriger un petit peu ses imprécisions techniques, mais c'est Ferran Torres. Ferran Torres est dans un bon jour. Non, mais c'est vraiment une option en sortie de banc qui est ultra importante pour l'Espagne et qui, depuis le début de la compétition, et on l'a encore vu ce soir, a beaucoup trop d'imprécisions. Ferran Torres, c'est un joueur qui, un jour, va te faire partie des meilleurs attaquants du monde parce qu'il est dans un grand soir et il peut faire des différences assez dingues. Et l'autre jour, tu vas te dire, mais il a même pas les niveaux première division. J'exagère évidemment. Mais et là, il est pas en forme depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais s'il arrive à corriger ça, c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, crée des choses, a des occasions. Et donc, c'est un joueur qui, et quand Daniel parlait du fait qu'aujourd'hui, les remplaçants sont de plus en plus importants, si t'arrives et que les Bleus, ils ont déjà dû défendre et ça va être pareil pour l'Espagne, évidemment, face à toutes les options françaises, mais si les Bleus, ils ont déjà galéré à défendre sur Lamine Yamal, etc., etc., et que derrière, t'as Ferran Torres qui rentre et qui est en forme et beaucoup plus précis techniquement, c'est-à-dire le niveau qu'on sait qu'il est capable d'avoir, ça peut changer la donne. Alors que si les entrants arrivent pas à être décisifs, je pense que l'Espagne va avoir beaucoup beaucoup de mal, parce que on sait très bien depuis le début de la compétition que les Français, quand ils entrent sur le terrain, et notamment Doué, Barcola, bah ils sont bons depuis le début. Ça n'a pas été le cas de tous les remplacements espagnols, sauf Merino évidemment, qui a été ultra ultra important.
Bon, alors ça c'est pour le jeu, c'est pour le terrain. Maintenant les Espagnols, ils vont y aller à fond. En 2006, ils voulaient mettre Zidane à la retraite. Là, ils vont se mettre
Je pense qu'ils sont plus du tout comme ça.
Ah ouais? Bah là, tu veux juste ce qui va se passer? Ils vont se mettre sur les côtes de Mbappé.
Ah, si.
Ils vont se mettre sur les côtes de Mbappé parce qu'ils sont déçus de Mbappé avec le Real.
Ça, tu veux dire?
Ah bah oui, là, mais Chiringuito, machin et tout. Oh non, voilà. Ça va envoyer pendant 4 jours, là.
Je demande à voir.
Non, mais Gilbert, t'as complètement raison. Ah, et oui. Je vais vous dire, il y a plus de rivalité dans l'esprit des Espagnols, des supporters espagnols, de la presse espagnole. Il y a beaucoup plus de rivalité France-Espagne que chez nous, les Français. Nous, l'Espagne, c'est un rival sportif. En ce moment, c'est vrai qu'il y a une rivalité. Ici, hein. Oui, non, mais il y en a une. Mais je t'assure que tu la sens beaucoup, beaucoup plus en Espagne qu'en France. Là, si tu demandes aux Français qui veulent absolument éviter de voir gagner la Coupe du Monde, ils vont dire les Argentins, ils vont dire les Anglais c'est nos ennemis toujours. Évidemment, on n'a pas envie que les Espagnols gagnent, mais les Espagnols, nous aujourd'hui, on est l'ennemi à la battre, on est le numéro un. Et surtout, je pense que dans l'esprit des Espagnols, le foot espagnol est supérieur au foot français. La façon de réfléchir le foot est supérieure au foot français. Après, la façon de jouer, la façon de former, et les clubs. Et là, ils ont Mbappé qui est la star du club le plus historique là-bas.
Permets-moi de te dire que globalement, on n'a pas envie de voir l'équipe de France.
Ils le vivraient très mal d'être éliminés par l'attaquant du Real Madrid.
Ni en Argentine, ni en Espagne, c'est pas une équipe qui est réellement supportée. On peut admirer ce qu'elle fait en ce moment, on trouve formidable, mais le football français, il n'est pas vraiment supporté. En Italie, personne veut voir les Français gagner. En Espagne, c'est pareil. En Argentine,
personne veut voir l'Allemagne gagner ou l'Angleterre gagner non plus.
Pareil. Donc, je répondais parce que il dit. On veut pas en Espagne voir. Oui, globalement.
Mais je t'assure que ils sont plus. On va voir. Au supporter espagnol moyen.
Rival quand même que français.
Oui,
il est plus. Il est. Non mais je vous assure que en tout cas mon ressenti sur place depuis 2 ans, j'ai été surpris en arrivant à quel point pour eux la rivalité avec la France compte énormément et vraiment. Et évidemment que les Français ils ont pas envie de perdre contre les Espagnols. Mais nous, quand tu penses au plus grand rival, au plus grand rivaux de la France au foot. À part là maintenant, parce qu'effectivement il y a cette rivalité sportive par rapport aux états de forme des équipes depuis 2-3 années, l'Espagne c'est pas notre premier rival, c'est pas notre deuxième, c'est pas notre troisième.
C'est
un peu derrière quand même.
Historiquement t'avais de l'Allemagne.
Historiquement on a quand même une grande rivalité avec d'autres équipes.
T'as eu l'Italie pendant très longtemps.
Bien sûr.
T'as eu l'Argentine, depuis 2018.
Historiquement l'Angleterre,
il y a plus beaucoup maintenant. Il n'y a plus tellement de France-Angleterre bouillant.
Oui, mais
culturellement,
ça vient d'autres choses.
Ouais, mais pas vraiment
la France-Angleterre.
En foot, c'est pas tellement culturel. Ouais.
Moi, mon adversaire historique, c'est l'Allemagne.
T'as des gros France-Portugal aussi.
C'est l'Allemagne.
Mais l'Allemagne, il n'y a plus réellement.
Ouais, mais c'est mon adversaire historique. T'en as un, toi, un adversaire historique. Hein. Tu te dis, celui-là.
Lui, c'est France-Italie. Dans les deux sens.
Ah, peut-être.
Pas vraiment, en fait.
Ah ouais?
Ça l'est devenu. Mais en fait, non, c'était plus l'Allemagne pour l'Italie. Ou le Brésil.
Ah ouais, l'Italie, le Brésil.
Il y a eu beaucoup de matchs historiques qui ont marqué des générations, quoi.
Bon, Edgar, surveille les médias espagnols, s'il te plaît.
70, il y a eu beaucoup.
Bien sûr. Si on voit une armée du Chiringuito.
Imaginez quand même l'attaquant du Real qui sort l'Espagne.
Les plus grands joueurs.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis.
Juste
point de vue positif, c'est souvent contre l'Allemagne, parce que 70, 82, même la demi en 2006, c'est un grand moment de l'histoire du football italien.
Mbappé, justement, on va en parler dans quelques instants. On va essayer de le placer dans le panthéon de l'équipe de France. Et puis l'actu du jour, évidemment, sera au programme. On parlera également du ratio des pénaltys faméliques dans cette Coupe du Monde. On essaiera de comprendre pourquoi. Daniel va parler des courses d'élan, mais peut-être pas que ça. Kevin va nous dire que les gardiens de 2 mètres, blablabla, blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse ce débat, d'ailleurs, parce que vous avez déjà tout dit. Bon, on le fera, on verra. Attends, ton micro. Oui.
Je dis là, tu as des chiffres.
Exactement. On les commentera. On se retrouve donc dans quelques instants ensemble. Et Fabrice Hawkins va nous rejoindre d'ailleurs pour parler de l'actu des Bleus.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.